Alors nous avons quitté l'Exode la semaine passée sur ce dernier acte où Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Et ça se manifeste par la gloire de Dieu qui vient remplir le tabernacle. Dieu est enfin présent au milieu de son peuple. Mais en fait, si c'est la fin de l'Exode, c'est pas vraiment la fin de l'histoire. Le peuple est délivré, il est délivré de l'esclavage, il est délivré de sa propre idolâtrie. Mais en fait, c'est le commencement. Dieu est avec eux et nous les voyons qui se mettent en marche. Ils sont en voyage, ils sont des étrangers. Ils sont dans le désert et ils se dirigent vers ce pays promis. Et ils sont au début de ce voyage où ils vont apprendre à connaître Dieu, où ils vont apprendre à vivre dans sa présence. Et c'est là que nous sommes, aujourd'hui, vous et moi, dans ce voyage. Et c'est ici aussi où commence cette lettre de Pierre à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui. Une lettre qui est écrite une trentaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Une lettre qui a vocation à nous encourager pendant ce voyage. Un chemin rempli d'épreuves, un chemin qui génère de la souffrance, mais une lettre qui nous encourage à traverser ce chemin. Et pas un encouragement un peu mièvre qui dirait « Bah écoute, ça va aller, puis tu sais, ça pourrait être pire. » Et puis regarde quand même, compare ton cas à ceux qui sont là-bas et tu vois bien que ça pourra aller. Non, un encouragement qui, vous verrez, au fil de cette lettre, est fait d'impératif à se saisir des promesses de Dieu. Et je vous propose qu'on puisse lire dans 1 Pierre, au chapitre 1, alors si vous avez ma version, c'est à la page 799, c'est tout à la fin, on est là. Et dans le chapitre 1, nous allons lire les versets 1 à 12. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Jusque-là. Pierre écrit à ceux qui sont étrangers. En fait, ils sont étrangers à l'époque parce qu'ils étaient dispersés. Il s'agissait de juifs dispersés à la suite de déportations, d'expatriations. Ils sont dans les régions du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, d'Asie. En fait, c'est la Turquie actuelle. Ils sont étrangers parce qu'ils ne sont pas chez eux. Mais ils sont surtout étrangers parce qu'ils sont différents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Actes 11, le qualificatif qui est adressé, qui désigne ces gens-là. Il est dit, c'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, chrétien, ça voulait dire petit Christ. Et en fait, cela voulait dire que l'on voyait dans ces gens des gens différents, des gens qui ressemblaient à Christ, à cet homme qui prônait le fait d'aimer ses ennemis, à cet homme qui disait qu'il fallait pardonner et de faire du bien à ceux qui nous font du tort. Et on voyait dans ces gens-là des petits Christ, des gens qui étaient différents, des gens qui lui ressemblaient. Et dans les circonstances de la persécution qui était en train de naître, cela se voyait d'autant plus. Parce que pendant un temps, le christianisme est un peu considéré comme une secte de la religion juive. C'est des gens qui sont un peu différents au milieu des juifs et la religion juive était tolérée dans l'Empire romain. Mais peu à peu, ils se sont distingués. Peu à peu, on a compris qu'ils étaient différents. Et peu à peu, Rome a entamé une persécution envers les chrétiens. De la persécution banale, due au fait d'être méprisé pour sa foi, des chrétiens sont alors rejetés dans la société. Ils perdent leur travail, leurs relations. Mais Pierre parle aussi au chapitre 4 de la fournaise qui est à venir. Et ça nous rappelle sans conteste Néron en 64 qui, voulant modifier Rome, l'a fait brûler et se sert des chrétiens comme bouc émissaire et déclenche une persécution horrible. On ira jusqu'à se servir des chrétiens comme torches vivantes pour éclairer la ville de Rome et les jardins de l'empereur. Mais de manière plus large, la lettre de Pierre s'adresse à chacun de ceux qui sont confrontés par l'épreuve, à chacun de ceux qui se demandent comment tenir ferme. Comment tenir ferme. C'est ce que nous verrons tout au long de cette lettre. Comment tenir ferme. Matthieu, qui a fait le découpage de la lettre de Pierre, nous a posé une série de questions qui introduiront chacune de ces prédications. Comment vivre l'espérance au sein de l'épreuve? Comment vivre l'obéissance au sein de l'épreuve? Comment vivre la sainteté au sein de l'épreuve? Comment vivre la soumission au sein de l'épreuve? Comment vivre la bénédiction au sein de l'épreuve? Comment vivre ensemble au sein de l'épreuve? Comment vivre heureux au sein de l'épreuve? Comment vivre dans le troupeau au sein de l'épreuve? Et la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est la première, elle concerne l'espérance. Comment vivre l'espérance au sein de l'épreuve? Et je vous propose que dans le texte d'aujourd'hui, nous puissions voir trois points qui nous appellent à vivre cette espérance. Le premier point, c'est de nous rappeler que Dieu nous a choisis. Nous sommes des étrangers, mais si nous sommes des étrangers, c'est parce que Dieu nous a choisis pour nous mettre à part. Et c'est ainsi que Pierre conclut le premier verset. Vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père. Et là encore, nous retrouvons un parallèle avec l'Exode. Moïse nous l'a rappelé, si Dieu délivre son peuple, ce n'est pas parce qu'il est meilleur, ce n'est pas parce que c'est le plus grand des peuples, c'est parce que Dieu l'a choisi. Dans sa souveraineté, Dieu l'a choisi. Il nous a choisi et le terme de préscience dans la bouche de Pierre parle du dessein de Dieu. En fait, c'est pas juste connaître l'avenir, c'est le préparer. En fait, ce terme n'est utilisé que deux fois dans le Nouveau Testament, et les deux fois, il est utilisé par Pierre. Et la première fois, c'est dans Actes 2. Est-ce que vous vous souvenez d'Actes 2 ? Pierre et les disciples viennent de recevoir l'Esprit Saint, et ils s'adressent aux foules, et ils montrent à ces foules qui sont là à Jérusalem que Jésus est le Messie qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Et ce jour-là, des Juifs de la dispersion sont là. Parce que trois fois par an, on se rendait à Jérusalem pour les fêtes de montée, et c'est la Pentecôte. Donc les Juifs sont là pour cette fête. Et d'ailleurs, certains viennent du pont, de la Galatie, de l'Asie, que l'on vient de citer précédemment. Ces Juifs qui vont entendre ce message seront baptisés et ils repartiront dans leur ville où, à leur tour, ils annonceront le Messie à ceux qui les entourent. Mais regardez ce que Pierre dit au cœur de ce discours d'Acte 2. Voici ce qu'il dit. « Cet homme, Jésus, livré selon les décisions arrêtées dans la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-lois. » Il dit deux choses. Il dit « C'est Dieu qui a décidé, bien avant que vous soyez nés, et nous savons par d'autres textes que, avant même la fondation du monde, Dieu avait destiné Jésus-Christ à venir sur cette croix. » Et c'est ce que Dieu annonce dès le péché, dès Genèse 3. Il dit qu'un jour, son Fils viendra. Mais il dit encore « C'est vous qui l'avez fait crucifier. » C'est Dieu qui l'a destiné, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a décidé dans sa souveraineté depuis toute éternité, et c'est vous qui l'avez fait. En fait, Dieu n'est pas limité par notre incompréhension, et ce qui nous semble opposé est en fait complémentaire dans la pensée de Dieu. Il œuvre dans l'histoire pour réaliser son plan, et nous sommes pleinement responsables de nos actes. Nous avons été choisis, Dieu a œuvré dans l'histoire pour nous appeler à lui. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Il dit, vous avez été choisis pour être conduits à la sainteté. Et encore une fois, c'est lui qui est à l'œuvre. Ou plus précisément, son esprit qui est à l'œuvre. S'ils sont des étrangers, c'est aussi l'œuvre de Dieu qui les rend différents des autres peuples, qu'il les conduit dans la sainteté pour qu'ils obéissent à ses commandements et qu'il les rend purs. C'est ce que nous voyons dans le verset 3. Qu'il les rend comme des petits Christ, qu'il les rend comme des gens qui pensent et agissent comme Christ, qu'il les rend semblables à Christ. Première chose, nous pouvons vivre l'espérance en nous rappelant que Dieu est souverain et qu'il nous a choisis. Deuxième chose, une fois que l'on a dit ça, il est nécessaire de se rappeler qui est Dieu et d'avoir une juste pensée de Dieu. Regardez, après cette courte introduction, Pierre s'exclame. Et voici ce qu'il dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui, arrivé là, mérite une telle exclamation? Et il répond juste après. Il explique. Voici ce qu'il dit. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre de son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Mercredi passé, Aude était inquiète de différents aspects concernant les plans et puis la réalisation de la maison que nous sommes en train de faire construire. Mais moi, de mon côté, le mardi, on avait passé la journée à Strasbourg pour ses examens. J'étais préoccupé par la préparation de l'Assemblée générale qu'on devait revoir avec le CA le jeudi soir. Je savais que j'avais quelques rendez-vous le mercredi, le jeudi matin aussi. Je savais aussi que j'avais la prédication de ce matin devant moi. Et plutôt que d'être attentif à ce qu'elle me disait, plutôt que de prendre le temps et de me poser et de réfléchir avec elle, j'ai vite vu que ça allait coincer, quoi. Il va falloir encore que j'appelle le chef de travaux, que je négocie avec le plaquiste, que je discute et ça va être compliqué. Et puis c'est des détails tout ça. Franchement, c'est des détails tout ça. Et je me suis senti coincé et j'ai tellement voulu montrer que c'était des détails tout ça que j'ai fini par être cassant avec elle, blessant. Et finalement, je suis parti dans mon bureau avec une conversation qui s'était assez mal terminée. Et on en est resté là. Mais dans mon bureau, il y avait une idée en tête. Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça maintenant? Tu vois pas que j'ai plein de trucs devant moi là? Tu vois pas que j'ai la prédication, le CA, le machin, le truc? Pourquoi tu me fais ça? Est-ce que c'est vraiment le moment d'en ajouter trois détails de placo et deux prises qui sont mal placées? Pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que pour certains d'entre nous, ça fait écho à notre cœur. Si seulement je pouvais être un meilleur chrétien. Si seulement je ne vivais pas tous ces problèmes dans mon mariage, ou avec mes enfants, ou avec mes parents, ça marche dans les deux sens, avec mon travail, ou avec ma famille, ou avec mes frères et sœurs de l'Église. Si seulement je pouvais être un meilleur chrétien, alors les choses seraient différentes. Les choses iraient mieux. Je suis désolé, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Si votre espoir est que les choses vont s'améliorer, alors vous placez votre espoir au mauvais endroit. Rien ne va devenir plus facile. Les problèmes de famille, d'église, de travail ne vont pas disparaître. Je me demande combien d'entre nous sont venus ici ce matin amers, fatigués, frustrés, déçus, énervé, en colère, vaincu et sans espoir. Et peut-être juste parce que vous placez votre espoir au mauvais endroit. Pierre nous dit dans ce texte qu'il y a un seul endroit où nous pouvons placer notre espoir. Et cet espoir, il n'est pas en nous. Il n'est pas dans une situation meilleure. Il est ailleurs. Alors après la mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle. John Piper dit ceci: j'aime la mort et la résurrection de Jésus-Christ, non pas parce qu'elle transforme ma vie en une succession de succès, mais parce qu'elle m'empêche de m'effondrer sous une série d'échecs. Et personnellement, je suis souvent frustré, fatigué, déçu, craintif, confus, énervé, vaincu et sans espoir. Et ce texte est une bonne nouvelle. Regardez. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon sa grande miséricorde, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque Pierre écrit cette lettre, à un moment, ses pensées se tournent vers Dieu. Et voilà ce qu'il pense. Voilà ce qu'il pense. Quel Dieu merveilleux! Quel Dieu incroyable! Quel Dieu aimant tu es! Quel Dieu de grâce tu es! Merci. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté qui ne t'ont pas laissé indifférent à notre désespoir. Qui ne t'ont pas laissé indifférent à notre mort spirituel dû à notre péché. Est-ce que vous pensez souvent à Dieu comme cela? Lorsque vous rencontrez des problèmes dans votre mariage, votre travail, vos enfants, vos parents, votre santé ou la vie en général, est-ce que vous pensez à Dieu comme cela? Ou est-ce que vous pensez à Dieu comme je l'ai fait cette semaine. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que les choses ne s'améliorent pas? Peut-être que nous n'oserions pas le dire ou le formuler, mais souvent nous le pensons. Pourquoi tu me fais ça? Et nous pointons un doigt accusateur vers Dieu. Pierre nous dit que si c'est ce que nous pensons de notre Père céleste, c'est parce que nous avons une mauvaise image de Dieu. Les lecteurs de Pierre vont affronter des épreuves de plus en plus terribles. Mais il leur rappelle que Dieu est le plus aimant qu'il soit, qu'il nous aime d'un amour totalement incompréhensible, qu'il est miséricordieux, qu'il est bon, qu'il fait tout pour nous et que tout découle de son amour et de sa grâce pour nous. Et voici ce qui nous donne en fait un nouvel espoir. Il nous a fait renaître pour une espérance vivante. Nous étions sans espoir et il nous a donné une espérance vivante, une espérance qui porte la vie en elle, une espérance qui nous régénère, qui se développe, qui nous remplit dans le temps. Pierre avait placé ses espoirs en Jésus. Il avait très tôt reconnu en lui le Messie, celui qui sauverait son peuple, celui qui rétablirait Israël, celui qui devait chasser les Romains, celui qui devait réformer le temple, la prêtrise, celui qui devait redonner à Dieu sa vraie place au sein du peuple, au sein de la vie. Et il avait perdu tout espoir. Il est retourné à son bateau, il est retourné à ses filets et il est redevenu un pêcheur. Pierre avait aussi perdu l'espoir en lui-même. Pendant que Jésus était jugé, il ne l'a pas renié une fois, pas deux fois, mais trois fois. Trois fois, il a dit « Je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est », alors qu'il venait de jurer qu'il le suivrait jusqu'à la mort. Pierre connaissait la vérité sur lui-même et il savait qu'il n'y avait aucun espoir. Et puis le dimanche après la crucifixion, les femmes sont revenues du tombeau où avait été placé le corps de Jésus. Et elle leur dit « Mais le tombeau est vide et on a vu un ange et il nous a dit que Jésus était vivant ». Et Pierre et Jean courent, Jean passe le premier, il arrive, il se penche, il regarde à l'intérieur. Et Pierre le devance, il rentre, il voit, il croit. C'est la première fois que Pierre place son espoir au bon endroit. Il croit, il voit rien et il croit. Jésus est ressuscité. Ça a pris un certain temps, mais la vie de Pierre a été transformée de manière radicale. Le Pierre qui écrit cette lettre 30 ans après n'est plus du tout le même que celui qui a renié Jésus, de celui qui est allé chercher sa barque, ses filets de pêche et qui a repris son bateau. Pierre est transformé par ce qu'il n'a pas vu dans le tombeau. Christ est ressuscité. Au verset 3, il nous fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est la résurrection de Jésus qui a tout changé pour lui et pour nous. L'espoir chrétien n'est pas que si nous sommes assez bons, nos mariages vont devenir meilleurs, nos enfants vont mieux se comporter avec nous, nos parents seront moins incompréhensifs de ce que nous vivons. Ce n'est pas la promesse de la réussite, de la santé. Si vous placez vos espoirs dans cela, c'est un peu comme de la drogue à bon marché. Les plaisirs sont éphémères et les lendemains difficiles. Cela veut dire quoi? D'être en bonne santé jusqu'au jour de sa mort. Si l'éternité, c'est des souffrances éternelles. Ça veut dire quoi d'avoir réussi sa vie s'il en échoue pour l'éternité? Ça va peser quoi dans la balance? Est-ce que notre espoir, il est dans des choses qui sont périssables et qui de toute façon vont disparaître assez rapidement? Regardez le verset 4. L'espoir est tourné vers un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel. Ce que ça change, c'est que si vous croyez en Dieu, si vous placez votre confiance en lui, vous avez un espoir que rien ni personne ne pourra jamais toucher. Il est immuable, impérissable, et c'est Dieu lui-même qui le garde pour vous. Aucune circonstance de la vie ne peut l'atteindre, ne peut le changer, ni pour le diminuer, ni pour l'augmenter. Cet espoir, il est sûr, il est ferme, il est fiable, il est dans les mains de Dieu seul, et pas dans les nôtres. Et c'est cela qui fait notre joie. Cette joie n'est plus atteinte par les épreuves, parce que nous appuyons sur l'amour de Dieu, nous leur donnons une nouvelle dimension, une nouvelle perspective. Pourtant, au verset 6, il rappelle que les épreuves sont nécessaires, qu'elles sont difficiles, qu'elles produisent de la tristesse en nous. Comment comprendre ça? Comment est-ce que nous mettons ensemble dans nos vies aujourd'hui le fait d'être d'une joie inaltérable et d'être triste à cause des épreuves, d'être accablé dans le même temps? Il y a un peu plus d'un an, mon oncle est décédé. Il avait tout juste 64 ans. Il profitait de sa retraite d'agriculteur. Il vivait en Ardèche. Sa maison était juste au-dessus d'une toute petite rivière dans une vallée perdue, une espèce de paradis terrestre. Et dans cette rivière, il descendait régulièrement se baigner. Il a fait ça toute sa vie depuis son plus jeune âge. Il a toujours habité dans cette maison-là. Et sans qu'on comprenne pourquoi, ce jour-là, il s'est noyé. J'ai passé tous mes dimanches après-midi de mon enfance dans cette maison. Et en fait, c'était un peu un grand frère. C'était avec lui qu'on a découvert plein de choses. On a gardé les chèvres ensemble, on a tué le cochon, on a fait des barrages, des radeaux dans cette rivière, on a fabriqué des appôts en bois de buis, on a tout fait avec lui. On a fait du vélo, on a conduit sa voiture. Non, on n'a pas conduit sa voiture. Et quand j'étais là pour les obsèques, de revoir, vous voyez, chaque lieu, chaque pièce, chaque endroit, ça me faisait remonter des souvenirs que je croyais même avoir oubliés. Et j'étais profondément, profondément triste. Mais en même temps, c'était un jour de joie. Je savais que pour lui, la résurrection de Christ était la sienne, de manière claire, définitive. Que lui, maintenant, savait exactement ce que cela voulait dire d'être délivré de ce corps mortel. Que lui, maintenant, savait ce que c'était cet héritage immuable, inaltérable qui lui avait été promis. Je savais que pour lui, il ne restait plus que la joie. Je savais que maintenant, Dieu était parfaitement glorifié par ce que lui avait fait dans la vie de mon oncle. Comment dans sa préscience il l'avait choisi, conduit par son esprit, sanctifié, et combien subitement tout cela était devenu totalement vrai, sans aucune ombre. La tristesse est passagère, la joie est éternelle. Par la foi, nous nous saisissons de ces choses. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que, sans l'avoir vu, vous avez cru en Jésus? Est-ce que l'attente de le voir bientôt nous remplit de cette joie indescriptible et glorieuse? Souvent, mes enfants me posent des questions à propos du ciel et on a lu pas mal de fois Apocalypse 21 et on imagine plein de choses. Vous savez, les rues en or, c'est quoi? Mais il y a une chose que je ne suis pas capable d'imaginer. C'est un monde sans péché. Non. C'est moi sans péché. Ça, je ne suis pas capable de l'imaginer. Mais je me réjouis aujourd'hui parce que je sais que c'est ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, jour après jour. Par la souffrance, par les difficultés, par ce que je rencontre dans mon mariage, dans mon travail, dans mes loisirs, dans tout ça. Je sais que c'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de me mettre à part, il est en train de faire de moi un petit Christ, et un jour je serai comme Christ. Et je me réjouis parce que je sais que cette chose-là sera parfaitement achevée le jour où je le rencontrerai dans la gloire. Et ce n'est pas moi qui serai glorifié ce jour-là, c'est lui qui sera glorifié de ce que lui seul a fait en moi, de ce que lui seul a produit. Je sais que le désespoir que j'ai de moi-même cessera. Je sais que ces jours-là, Dieu sera glorifié pour cela. Troisième et dernière chose, plus rapidement, en nous rappelant de l'immensité de ce que Dieu a fait pour nous sauver. Notre texte a commencé avec ce grand plan de Dieu qui est vu juste en deux, trois versets où il dit qu'il nous a choisis et puis qu'il nous transforme, que c'est lui qui œuvre et que finalement nous sommes son ouvrage. C'est lui qui est au boulot, c'est lui qui est à l'œuvre, c'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Et puis il nous fait prendre un peu de recul, il nous dit que tout ça s'est programmé depuis si longtemps. Les prophètes en ont entendu parler par son Esprit Saint. Ils avaient déjà des échos, des souffrances et de la gloire qui s'en suivraient pour le Messie. Dans la grande histoire du salut, qui concerne toute l'humanité, depuis la Genèse jusqu'au prochain retour de Christ, dans cette grande histoire du salut, il fallait qu'un jour, Christ meure sur une croix et qu'il ressuscite. Il fallait qu'il souffre et qu'il soit glorifié. Et ces mots, en les lisant dans la lettre de Pierre, me rappelaient en filigrane ce que dit le prophète Ésaïe dans le chapitre 53. Il fallait qu'il souffre, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais ça nous parle aussi de gloire. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, il prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera dans ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira les regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Et le message est absolument extraordinaire et glorieux. Le Dieu des cieux choisit de s'offrir en sacrifice pour ceux qu'il aime. Pour moi, pour vous. Le Dieu des cieux choisit de s'offrir en sacrifice pour ceux qu'il aime. Pour moi, pour vous. Pour vous qui entendez ces mots aujourd'hui. Pierre nous dit que les anges eux-mêmes regardent ça avec une attention particulière. Ils regardent ce que Dieu fait pour les hommes. Et ils sont subjugués par cela. Quelques mots pour conclure. La lettre aux Hébreux nous dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et notre souffrance est un écho à sa souffrance, un bien faible écho. Un bien faible écho, mais un écho. Dans le sens où quand nous souffrons, nous apprenons. Ça fait mal, mais nous apprenons. Nous apprenons la foi. Nous apprenons la foi. Une foi vraie et véritable. Une foi qui regarde la vie d'aujourd'hui en perspective de la vie éternelle à venir. Une foi qui place sa confiance dans l'amour et la puissance de notre Dieu. Une foi qui patiente parce qu'elle sait que le meilleur est à venir. Une foi qui, dans toutes les circonstances, nous permet de dire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa grande bonté, nous a fait naître à nouveau à travers la résurrection de Christ. » Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, oui, nous voulons te bénir pour ce que tu es et pour ce que tu as fait. Nous voulons te bénir parce que tu es un Dieu d'amour et tu nous as aimés à un point incompréhensible pour nous, en t'offrant toi-même sur une croix, en subissant toi-même la colère de Dieu le Père qui nous était dû. Nous imaginons avec peine la souffrance. Peut-être pouvons-nous apercevoir les souffrances physiques de la croix, mais nous sommes bien incapables d'en comprendre les souffrances morales, la portée qu'il y avait pour toi qui était juste et saint de subir le jugement pour nos péchés, pour nos horreurs, pour nos mauvaises pensées, pour tout ce qui constitue nos vies et dont nous avons bien souvent honte. Béni sois-tu pour être ce Dieu-là. Béni sois-tu parce que ton plan est de nous ressusciter avec Christ, de nous unir avec Christ. Béni sois-tu parce que nous sommes ton œuvre. Tu travailles en nous et cette régénération est une régénération vivante où tu nous transformes peu à peu. Béni sois-tu parce que nous savons qu'un jour nous serons comme ton Fils, sans péché, totalement pur. Nous pourrons te voir face à face. Nous serons dans ta présence d'une manière pleine et complète, pas au travers de prêtres, d'un tabernacle et de plein de choses, de plein de procédures. Non, nous serons avec toi, glorifiés avec toi. Seigneur, fais de cette espérance éternelle l'espérance qui nous transforme aujourd'hui. Que tout ce que nous vivons de difficile soit vu à la lumière de l'éternité, de ce que toi, tu es en train de faire. Rappelle-nous que ce que nous traversons aujourd'hui est utile pour l'éternité. Tu n'es pas en train juste de... C'est pas un jeu, c'est pas quelque chose que tu fais, c'est que tu nous transformes pour ce que nous serons dans l'éternité. Merci parce que tu le fais avec amour, avec patience, avec bonté. Merci parce que tu ne te lasses pas de continuer avec nous malgré nos échecs, malgré notre péché. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.